Donc je passe la parole maintenant à Daniel Inerariti en indiquant qu'il est né en 1959, qu'il est professeur de philosophie politique à l'Université du Pays Basque, directeur de l'Institut de gouvernance démocratique. Il collabore régulièrement au journal El País. En 2003, il a obtenu le prix Miguel de Unamuno de l'essai, ainsi que le prix national de littérature en Espagne. En français, nous avons de lui deux livres, Le futur et ses ennemis, paru aux éditions Flammarion Climat en 2008, et La démocratie sans l'État, Flammarion Climat aussi 2006, et Éthique de l'hospitalité, qui a été publié aux presses universitaires de Laval, au Québec. Je vais lui passer la parole en le remerciant d'abord de s'exprimer en français, mais il a vécu en France et donc je crois que ce n'est pas pour lui quand même un drame, mais je le remercie d'être venu en tant que philosophe basque, espagnol et francophone. Voilà, je lui passe la parole. Merci.
Merci Yves. Bonjour à toutes et à tous. Ça va être pour moi une difficulté, un certain défi de vous parler en français. Je ferai de mon mieux. Et depuis quelques années, la réalité sociale et politique s'est convertie au communisme. Certes, la guerre froide a été gagnée par le capitalisme, mais la dynamique des événements fait surgir des problèmes qui mettent au centre de nos préoccupations, le souci non pas du particulier, mais de ce qui nous est commun. C'est dans ce sens que je parle de communisme. La mondialisation est souvent associée à la privatisation, du fait de la libéralisation de l'économie, du transfert de certains biens et services vers le marché. Mais on peut tout aussi bien la comprendre, la mondialisation, comme un développement de la sphère publique dans des sociétés toujours plus interdépendantes. La politique de nos jours ne traite que des problèmes communs. Les problèmes les plus importants, les dossiers les plus importants, sont les problèmes communs, les biens publics à l'échelle de l'humanité. Les principaux problèmes de nos sociétés concernent les biens publics et nous sommes conscients que les stratégies avec lesquelles nous devons affronter ces problèmes doivent être également communes. Le système global complexe, qu'il soit financier ou écologique, font que le destin de nos communautés dépend désormais des communautés les plus éloignées. L'horizon vers lequel tout cela tend est celui d'une politique de l'humanité, c'est-à-dire de la possibilité pour l'humanité comme totalité, quelle que soit la nature de celle-ci, d'agir en tant que telle, de la nécessité de configurer un niveau de gouvernance correspondant à ces biens communs universels, qui exige d'être pris en compte avec toujours plus d'insistance dans les espaces désormais délimités de la mondialisation, ce que j'appelle l'élargissement mondial de la démocratie. Je veux expliquer cette question en trois volets. D'abord, je veux faire une petite réflexion sur l'idée de l'interdépendance. Après, je parlerai de l'idée de la métaphore plutôt d'un monde qui est devenu un monde sans alentour, sans marge, sans dehors. Et pour finir, je parlerai un petit moment de la gouvernance mondiale. La logique de l'interdépendance nous impose la considération des biens publics à l'échelle de l'humanité. Ces biens publics sont des biens dont les bénéfices ou les coûts, s'il s'agit des mots publics, affectent potentiellement tous les citoyens, tous les pays et même toutes les générations. L'exemple le plus évident est celui de l'environnement, mais il en va de même au niveau de la connaissance, de la santé, de la paix, de la sécurité,
de la stabilité financière, de l'efficacité des marchés, du respect de la biodiversité, etc. Les questions politiques majeures se sont émancipées presque totalement du cadre défini par les États-nations à trois niveaux. Celui de l'origine du problème, qui ou quelle action en est la cause, British Petroleum, etc. Celui de l'impact, quels en sont les effets négatifs et qui en souffrent, l'impact, et celui de la solution, qui doit résoudre le problème et comment. L'origine, l'impact et la solution de certains problèmes ne coïncident plus avec les limites de l'unité traditionnelle qui était celle des sociétés organisées sur la base de l'État-nation. Un nouveau cadre apparaît, celui de l'interdépendance ou de la dépendance mutuelle, qui a pour conséquence une vulnérabilité partagée. Le succès du système politique moderne, qu'on fait remonter généralement à la paix de Westphalie, est à rapporter à deux conquêtes qui se renforcent mutuellement. La première est la capacité de chaque État pris isolément à organiser de manière efficace l'espace public à l'intérieur de l'État et assurer un certain nombre de biens publics à l'intérieur de sa sphère propre. La seconde capacité est la capacité des États pris dans leur multiplicité, les États, à développer un système de règles, de normes et de pratiques qui limitent ou régulent les conflits directs qui peuvent surgir entre eux. Il est clair, à mon sens, que ces deux capacités sont remises en cause par la mondialisation. Les États ne sont plus en mesure d'assurer les biens publics intérieurs qu'ils promettaient. Et, en plus, la simple juxtaposition des États souverains ne suffit plus à garantir les biens publics extérieurs. Par rapport à ces deux fins, tous les États, aujourd'hui, sont en situation d'échec. Les États pris isolément et les systèmes des États souverains rencontrent les pires difficultés lorsqu'il s'agit d'assurer les stabilités, la sécurité, la prospérité et les autres biens spécifiquement collectifs. Le concept des biens publics s'est peu à peu modifié. Nous sommes en train de prendre conscience qu'il s'agit de biens indivisibles qui ne se laissent gérer par les États souverains qu'au prix des graves effets pervers, comme c'est le cas avec l'environnement, la sécurité, la stabilité économique, comme nous venons de le voir tous les jours. Les crises mondiales et les risques globaux n'affectent pas seulement les communautés nationales directement concernées, mais l'ensemble de l'humanité, en raison des conséquences en chaîne et des effets secondaires. Dans la mesure où il s'agit de biens communs à l'humanité entière, ils cessent d'être seulement des biens relevant de l'État souverain. Du point de vue de ce qu'il est approprié de nommer les biens publics communs de l'humanité, à l'humanité tout entière, la souveraineté n'est qu'une étape qui précède à la concertation sur les principaux problèmes qui nous affectent, pour la plupart desquels une politique nationale, unilatérale, est dépourvue de sens ou limitée. Et nous avons l'impression que les décisions fondamentales ne sont déjà plus prises au niveau national, qui de plus en plus ne gère que les questions secondaires. Deuxième volet, je vais expliquer à travers la métaphore du monde sans alentour, d'un monde qui est devenu sphérique, sans marche, sans dehors, et cette idée de l'interdépendance. Le fait que tout soit en relation avec tout, c'est comme ça qu'on est habitué à définir la mondialisation. Tout soit en relation avec tout, nous invite à considérer le monde comme un système unifié, dans lequel les initiatives engendrent les résistances. Il n'y a pas d'initiative sans la résistance correspondante. Ou un monde où la séparation entre le dedans et le dehors, il existe encore, mais il devient problématique. Un monde où nous sommes tous exposés aux mêmes intempéries. De même que les risques indésirables ne respectent ni les délimitations ni les sphères des compétences, on ne peut pas interdire le changement climatique en France, et seulement en France, il faudra l'interdire dans le monde entier, s'il est possible. Et le monde commun se constitue comme une suppression de la différence rigide entre les propres et l'étranger. Cette différence, cette distinction rigide ne marche plus. Métaphoriquement, on peut caractériser cette configuration originale comme un monde désormais sans alentour, sans confins, sans marge. Et global, ce qui ne laisse rien hors de lui, ce qui comprend, lie et intègre tout, sans rien qui demeure à l'extérieur, solitaire, isolé, indépendant, qu'il soit perdu ou protégé, sauvé ou condamné. La formule de Martin Shaw prend ici tout son sens. There are no others. Il n'y a pas d'autres. Ulrich Beck, dans la même direction, propose d'interpréter la mondialisation comme l'automenace civilisatrice qui supprime la simple juxtaposition des multiples peuples et cultures pour introduire ceux-ci dans un espace unifié, dans une unité cosmopolite du destin. Et David Held parle dans son Boissin des communautés ayant une intersection des destins, pour indiquer que la mondialisation des risques, surtout des risques des mots, fait naître une communauté ou une coalition involontaire telle que personne n'échappe à ses destins communs. La suppression des marges marque la fin des deux opérations habituelles qui étaient comme les deux faces d'une même monnaie, deux opérations habituelles dans la vie ordinaire et dans la vie aussi politique. Garantir sa propre immunité, d'abord, et deuxièmement, déplacer l'indésirable vers la périphérie spatiale ou la périphérie de la génération suivante. Quand, à l'époque où les confins existaient, un ensemble d'opérations permettait de disposer de ces marges. Il fallait repousser, il était possible de tourner leur regard, ignorer, protéger. Parce qu'il existait une différence nette entre le propre et l'extérieur. Ce qui nous appartient en propre, la clientèle particulière, la raison d'État, tout cela avait encore un sens. D'un autre côté, lorsque nous disposions encore des confins, tous les problèmes pouvaient être résolus par la simple moyen de l'externalisation, en les déplaçant vers les marges, au-delà de l'espace visible, en autre temps ou en autre lieu. Les confins sont précisément un lieu où l'on peut se débarrasser pacifiquement d'un problème non résolu. Ils sont l'équivalent d'une décharge. Voilà mon définition des confins, des marges. Un lieu où on peut déposer les problèmes qui ne sont pas résolus jusqu'à présent. Mais Il faut faire un petit effort métaphorique pour s'imaginer un monde où, dû à l'inexistence de ces marges, de cet espace de décharge, ces sortes d'opérations ne sont plus possibles. Il devient chaque jour plus difficile de refiler nos problèmes aux autres. Ça devient une opération très difficile. Il n'y a pas d'autre qui l'assume facilement. Aux régions éloignées, aux générations futures, ça c'est encore possible. Hein. Mais ce n'est pas légitime si Pierre Saint-Vallon est d'accord. Non, c'est... Aux autres secteurs de la société. La mondialisation implique l'impossibilité, l'illégitimité d'expulser l'autre vers un ailleurs hors de notre portée, parce qu'il n'existe, à proprement parler, rien qui soit hors de notre portée. C'est la raison pour laquelle ont surgi ces derniers temps une multitude de débats qui ne pouvaient voir le jour qu'à partir du moment où se sont affaiblies les délimitations traditionnelles entre l'intérieur et l'extérieur. Le monde est déjà un ensemble de destins enchevêtrés, d'espaces qui se recoupent, une implication involontaire qui produit des voisinages insolites et des espaces où se joue un destin commun. La mondialisation est un mélange d'opportunités et de biens communs qui renforce la puissance de tous et, en même temps, nous rend infiniment vulnérables. De ce point de vue, la crise économique actuelle illustre, à mon avis, parfaitement cette caractéristique de la mondialisation qui est la disparition des confins. On peut d'abord affirmer, sans exagérer, que c'est probablement la première crise économique véritablement globale. La première où ce caractère mondial, je parle en espagnol, on parle plutôt de globalisation que de mondialisation, comme en anglais, ce caractère global a joué un rôle aggravant. Dans les crises partielles, les relations économiques et financières permettent d'atténuer l'impact initial en le détournant partiellement sur le reste du monde. Le reste du monde fonctionne comme un modérateur de la crise. Mais, si c'est vrai ce que je viens de dire, nous sommes dans un monde sans marche, sans alentour, sans dehors. Dans le cas d'une crise mondiale, dans un monde comme je viens de le décrire, il n'y a plus de reste du monde pour jouer ses rôles modérateurs et la crise ne peut que développer sa logique interne jusqu'à sa conclusion. La crise a manifesté, par ailleurs, d'un autre point de vue, l'inconvénient, l'illégitimité qu'il y a à distinguer les dedans du dehors en oubliant leur interaction. Dans la sphère de la finance, par exemple, la régulation des banques s'est révélée inefficace justement en raison de sa nature microprudentielle, c'est-à-dire du fait que la régulation, selon la régulation actuelle, chaque établissement bancaire a pris en compte les risques liés à l'insolvabilité à l'intérieur et non au niveau du système bancaire en général. Les régulations ont suscité une distinction tout à fait dommageable entre les actifs inclus dans les bilans et les actifs hors bilan. Le hors bilan a servi des confins, des marges, des alentours, d'extérieur, et comme on a pu le constater, une telle solution n'a pas fonctionné. Le système bancaire peut être affecté aussi bien par l'explosion de risques liés aux actifs du bilan que par celle des risques liés aux actifs hors bilan, à partir du moment où cette explosion dépasse un certain seuil et acquis une dimension systémique. Si la crise vient de cette nature, des natures systémiques, c'est-à-dire d'une nature qu'on peut la comprendre qu'à partir de l'effacement de la distinction entre le dedans et le dehors, il est évident aussi que la réponse ne passe que par un traitement systémique et coopératif. L'horizon d'une gouvernance financière apparaît chaque jour davantage comme une référence incontournable à partir du moment où l'on sait que le seul cadre interétatique ne permet pas de traiter une crise mondiale et, plus généralement, de prévenir les déséquilibres économiques et financiers mondiaux. Les métaphores que nous avons utilisées plus haut, l'impossibilité de nous débarrasser de nos déchets vers l'extérieur, ou bien d'être totalement immunisés, protégés, fermés, traduisent une même exigence d'inclusion, de lutte contre les asymétries dont les inconvénients sont de plus en plus évidents. L'asymétrie spatiale entre la nature territoriale des États et la nature globale de la plupart de nos problèmes. Troisième et dernier volet, comment gouverne-t-on les espaces délimités, les espaces sans limitation fixe, nette? Les conflits et les catastrophes ont nombre d'inconvénients, mais ils sont au moins, je veux être un peu à la fin optimiste, mais dans ce cadre un peu compliqué et pessimiste, l'avantage des conflits et des catastrophes, c'est leur fonction d'intégration. On a essayé tout au long de l'histoire de faire des intégrations économiques et politiques et en termes positifs, mais je crois qu'il est toujours la menace de la catastrophe, la menace du risque qui exerce la fonction d'intégration la plus importante, la plus solide. Les risques, les catastrophes, les dangers communs manifestent en effet que seules les solutions à l'échelle de l'humanité conviennent et qu'elles ne sont pas possibles sans perspective, institution et norme mondiale, quoi qu'il en soit. Ce qui en tient lieu est de fait une politisation. Nous sommes en train de voir, d'expérimenter une politisation involontaire de la société du risque. La société du risque est en train de se politiser, car le risque, quand ils sont convenablement interprétés, pousse les sociétés à coopérer. Nous avons besoin, à cet égard, de développer au niveau de l'ensemble de l'humanité toute une nouvelle grammaire des biens communs. Nous ne connaissons pas, nous ne parlons pas ces grammaires des biens communs. Nous avons besoin de nous rendre plus sensibles aux effets de l'interdépendance, de penser en termes des biens requérant une action multilatérale coordonnée et non une action isolée. La véritable urgence de notre époque consiste à civiliser, à humaniser la mondialisation, à mettre en place une véritable politique de l'humanité, c'est-à-dire élargir la démocratie à l'échelle de l'humanité. C'est un changement profond des paradigmes dans la mesure où nous sommes habitués à penser en termes de monde multipolaire où prédominent les rapports de forces non coopératifs. Il est possible que l'idée de l'interdépendance en tant que valeur se substituant à la souveraineté ou la corrigéant, nous conduise à découvrir l'humanité entière derrière les peuples et à nous rendre compte que certaines pratiques facilitent mieux que d'autres le développement des biens communs. Certains ont accueilli avec scepticisme l'idée d'une mondialisation du droit, de la solidarité ou de la politique, en attirant l'attention sur les difficultés politiques d'un tel processus. Il est vrai, il s'agit d'un processus vraiment difficile. Et quelques-uns se demandent quel électorat pourrait bien mettre en œuvre de tels objectifs, étant donné que le cosmos n'a pas de politique, ne dispose d'aucun corps politique, ne décide ni ne vote. À l'encontre de cet argument, l'absence de corps politique, de capacité de décision, de vote, on peut faire valoir d'abord que les difficultés de la politique antérieure ne sont pas moindres, comme on peut les constater tous les jours. Il y a un nombre énorme de mesures qu'on ne peut pas prendre à niveau national parce qu'il n'y a pas de corps politique approprié, parce qu'il n'y a pas d'électorat qui peut soutenir ces sortes de mesures. Ces difficultés sont aussi présentes au niveau national. Il y a en outre une objection de principe contre l'idée qu'il ne peut y avoir de politique à un niveau différent de celui des espaces déjà constitués. Mais l'idée selon laquelle la politique ne se pratique qu'au niveau des espaces politiques déjà constitués. Il est certain, à mon avis, qu'au moment où ont surgi la plupart des problèmes politiques, nous sommes dans une salle où on a pris des décisions politiques de telle sorte, il n'existait aucun sujet ni aucune procédure pour les résoudre. On a fait de la politique sans l'existence de sujets ou procédures pour résoudre certains problèmes politiques. La politique a toujours une dimension constituante. Les sujets chargés de prendre de la décision se constituent au moment où surgit le problème et non l'inverse. Et nous savons qu'une démocratie sans démos est possible. Difficile, mais il est possible, comme c'est le cas dans l'expérimentation européenne actuelle. Il n'est pas certain que les processus d'interdépendance conduisent à une extinction de la politique, au sens également de fin des idéologies et de fin de l'histoire, comme on le rêvait dans une optique néolibérale ou comme le souverainisme classique le déplorait. L'extinction de la politique grâce ou en vertu de la mondialisation. À mon avis, c'est bien plutôt le contraire. Nous sommes devant une énorme repolitisation de nos sociétés ou face au défi de la repolitisation de la société mondiale. La mondialisation n'est pas condamnée à être un processus de dépolitisation. Ceux qui les pensent ne comprennent pas que les défis actuels consistent à étendre les démocraties au-delà de l'État-nation. La démocratisation à l'intérieur de nos sociétés doit être étendue aux espaces délimités et aux processus transnationaux. La mondialisation fait naître quantité de nouvelles contraintes pour la politique. Ça, c'est vrai. Mais elle ne marque pas la fin de celle-ci. La politique n'est pas morte. Je voudrais conclure avec cette affirmation. La politique n'est pas morte, elle a immigré, elle est passée des espaces classiques nationaux, bien délimités, au sein mondial interdépendant. Bien que la gouvernance mondiale ne soit pas une politique de même type que celle de cette nation, elle correspond à une tâche authentique tant au niveau de l'élaboration des institutions nécessaires qu'à celui de la configuration des processus de décision correspondants. Merci beaucoup.
Merci Daniel Inerariti. Bien, ben, nous avons, grâce à la ponctualité des intervenants, nous avons du temps pour les questions. Et donc, j'ouvre tout de suite cet espace de questionnement ou de remarque. Il y a des micros qui vont circuler. Ici, tout de suite devant nous, ici, je regarderai aussi ce qu'il y a sur Internet, si jamais il y a quelque chose. Là, monsieur, puis monsieur.
Je m'adresserai essentiellement à Pierre-Rosan Vallon, qui a parlé du juge. En tant que magistrat, donc je ne peux qu'y être sensible, mais en même temps, les problèmes qu'il a évoqués sont extrêmement délicats et touchent à des mécaniques, des réglages fins et auxquels nous ne sommes pas encore peut-être tout à fait parvenus. Nous sommes, tout le monde le sait, une société de retour en force du droit, de développement très fort de la demande de justice, ceci d'ailleurs en corrélation avec ce que vous avez évoqué en filigrane, c'est-à-dire le développement d'un certain individualisme qui fait qu'on considère que chacun a plus de droits subjectifs que d'ailleurs de devoirs
plus près du micro,
à l'égard de la société. Alors, l'émergence du juge depuis quelques décennies était la manifestation de cela et du recours au juge. Le juge tire pouvoir, le juge méta-garant. Est-ce que ce juge est légitime pour autant ? Vous indiquez qu'il faut distinguer, on peut vous suivre, la légitimité démocratique de le statut démocratique, de la qualité démocratique. Et certes, c'est sur cette fiction, en quelque sorte, que repose la légitimité du juge qui est nommé par le représentant du souverain, qu'est le président de la République. Mais en même temps, le juge n'est pas élu. Donc est-il démocratique, est-il légitime malgré tout, même si, paradoxalement, vous considérez qu'il est, en ce sens, plus indépendant, parce que, même si les mandats impératifs sont nuls, le fait de ne pas être, comme dans certains pays étrangers, mandataire direct du peuple, permet, donne une marge d'appréciation peut-être plus grande dans l'exercice de cette fonction judiciaire. Alors, en France, je pense que le juge tire sa légitimité de la loi, en fait. C'est à part son processus de nomination démocratique, c'est-à-dire par un représentant du souverain et au terme de procédures de recrutement qui sont également démocratiques, avec une égalité d'accès, notamment à travers le système du concours républicain. En dehors de ça, nous tirons notre légitimité de la loi. Mais nous la tirons de la loi dans la conception traditionnelle, c'est-à-dire au sens de la Révolution, où le juge était la bouche de la loi. Aujourd'hui, nous sommes un peu moins la bouche de la loi, pour des raisons qu'on connaît, parce que le développement de l'application de la hiérarchie des normes, du principe de l'égalité, du contrôle de l'égalité des normes, a fait, et vous parliez du juge constitutionnel, que par exemple le bloc de constitutionnalité s'est beaucoup développé, que les principes fondamentaux tirés des lois de la République ou que les principes généraux du droit ont été peu à peu créés découverts, comme on dit, par le Conseil constitutionnel d'un côté, par le Conseil d'État de l'autre. En cela, ces deux catégories de juges se sont d'ailleurs exposées à certains moments à la critique par les observateurs, par les juristes, parce qu'ils ne statuaient pas en fonction d'un droit préétabli, un droit écrit. C'est une première question. Et puis surtout, le développement de l'irruption, je ne sais pas, c'est peut-être trop long, mais je vais juste terminer, si on me permet. Le développement de l'irruption du droit conventionnel dans notre pays, et donc d'un droit d'une autre origine, avec des principes et des mécanismes juridiques différents, là aussi, a donné à développer la marge de manœuvre du juge. Et donc, là aussi, la question de la légitimité démocratique du juge, son adéquation avec nos principes fondateurs et avec ce qu'attend la population, peut être mise en question. Et donc, je vais juste conclure là-dessus, en priant l'Assemblée de bien vouloir me pardonner d'avoir été trop long, je ne m'en rendais pas compte, mais en disant que pour moi, l'important, c'est qu'on boucle plus entre le juge et le législateur, Il y a un travail qui a commencé à cet égard depuis quelques années, un rapprochement, mais qui, je pense, est encore insuffisant. Il faudrait que non seulement il y ait des échanges, des visites, mais aussi un travail commun sur ce que nous faisons des lois, et que le législateur n'hésite pas à reprendre la main pour éventuellement redresser les choses, corriger les tirs.
Monsieur Rosanvallon, ensuite.
Oui, il existe, d'ailleurs il existe une institution qui s'appelle l'Institut des hautes études de la justice qui s'est fait un peu la spécialité d'être le lieu de rassemblement de magistrats, de discussion. J'ai participé plusieurs fois, à la fois avec des magistrats de la Cour de cassation, avec des magistrats du siège ou avec des magistrats administratifs comme du Conseil d'État. Mais pour notre sujet sur la légitimité, effectivement, on peut se concentrer sur la partie de la question que vous avez posée concernant l'élection des juges. L'élection des juges, c'est un grand débat pendant la Révolution française, c'est un grand débat pendant la Révolution américaine. Et aux États-Unis, il y a eu une sorte de aux États-Unis, la législation sur l'élection des juges est propre à chaque État. Donc elle est très variable. Mais on peut dire que le système qui a fini par l'emporter, c'est ce qu'on appelle le Missouri Plan. Le Missouri Plan, c'est-à-dire que ne peuvent être candidats que des personnes sélectionnées pour leur qualité, leurs compétences, disons, judiciaires. Et ensuite, il y a une procédure d'une élection dite de reddition pour réélire les personnes. Donc c'est un mélange, en quelque sorte, de nomination et d'élection qui sont en fait des élections de confirmation. Dans le système américain, le Missouri Plan couvre à peu près une trentaine d'États. Et en France, au moment de l'établissement de la Troisième République, Gambetta avait par exemple solennellement promis que l'élection des juges serait un élément central du programme républicain. Et si finalement les républicains ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils ont vu aussi qu'ils craignaient qu'il y ait un nombre trop grand de juges blancs qui restent en place. Donc c'est pour des raisons politiques. De même que les républicains ont procédé à l'épuration de la préfectorale, ont procédé à l'épuration du Conseil d'État, je dirais qu'on a pensé que la démocratie procédait plus par l'épuration qu'elle ne procède par, je dirais, l'espérance d'impartialité. Et donc la question pour les juges, elle est très simple, c'est de savoir comment mieux constituer un corps judiciaire qui puisse être en quelque sorte avoir une fonction de régulation interne. Quand on relit les grands classiques comme D'Aguesseau, etc., bien sûr, personne aujourd'hui ne peut espérer que c'est l'idée d'un corps de lumière qui, se pensant presque divin, deviendra le garant de l'impartialité. Cette vision de l'impartialité presque divine, elle ne me semble pas atteignable. Mais on ne réfléchit pas assez dans le corps aux conditions dans lesquelles un fonctionnement de contrôle, un fonctionnement de vigilance pourrait exister. Parce que le corps, il existe non pas comme une instance démocratique, mais il existe comme une instance trop corporative, je pense. Et là, que ce soit pour les magistrats du siège ou les autres, je crois que la réflexion sur une redémocratisation de la justice ne passe pas forcément par l'élection, même s'il faut aller au bout de l'argument sur l'élection. Il faut expliquer au fond pourquoi l'élection n'est pas forcément la procédure la plus démocratique. Mais dès que l'on dit cela, il faut dire en contrepartie que ça comporte des exigences très grandes de dire cela. Si l'on dit que l'élection n'est pas la seule procédure démocratique, il faut trouver d'autres qualités démocratiques. Et ces autres qualités démocratiques, il faut en permanence les prouver. Il faut en permanence pouvoir les expliquer. Ce qui fait, par exemple, qu'un juge a une qualité démocratique, c'est aussi parce qu'il rend explicites les motivations de sa décision. Et ça n'est pas un décideur souverain. Le décideur souverain, il n'a pas à s'expliquer. Puisqu'il a un statut de légitimité, il n'a pas à s'expliquer. Un décideur qui, justement, n'a pas une fonction de souveraineté, il doit s'expliquer, il doit motiver ses décisions, c'est-à-dire s'exposer aussi à la discussion. Et la démocratie, c'est cela, c'est la confrontation permanente des décisions que prend un groupe ou une personne aux exigences de la société. Et la définition de la démocratie délibérative, c'est cela, c'est la délibération permanente sur la qualité démocratique de ceux qui ne sont pas élus. Le statut de ceux qui sont élus, c'est réglé en une seconde, c'est le moment de l'élection.
Allez-y.
1, 2, c'est bon. Bonjour, José Munoz. Voilà, je suis président du Comité international des jeux poétiques et libre penseur, si je puis dire. J'ai écrit la question de telle manière à ce que ça soit rapide, concis et permette aux intervenants de pouvoir répondre. Et je pense que Daniel Inierarti sera sensible également à cet effet-là, comme tous nos pairs qui ont jugé que la problématique de décentralisation de l'époque, de la provincialisation de baronnie était un vrai problème et ont constitué un État fort. Et voilà donc ma question qui rentre dans ce qui est le premier article de notre Constitution qui définit la décentralisation comme un élément clé. Au moment donc où nous continuons péniblement à construire l'Europe, quelle légitimité ont encore les États-nations qui freinent souvent toute évolution harmonisée d'une puissance Europe économique, environnementale, sociale, fiscale et culturelle, et ignore la légitimité des régions ou des autonomies, en Espagne par exemple, ou des landers, etc., mais également des cités-métropoles d'aujourd'hui, donc des citoyens qui sont les plus proches des décideurs décentralisés.
Je dirais deux choses très simples pour répondre à votre question. La première, c'est que l'Europe est un bon exemple justement d'exploration tâtonnant de nouvelles formes de légitimité. Car l'Europe, indépendamment des institutions parlementaires classiques sur lesquelles elle repose beaucoup sur la construction du droit. Et comme vous le savez, c'est justement en Europe que la notion de procès impartial ou que toute la vision justement de l'indépendance a été la plus théorisée. Donc on peut dire que l'Europe, au fond, n'est pas tellement un espace de démocratie électorale, enfin partiellement seulement, et beaucoup plus un espace de démocratie impartiale ou un espace même de réflexivité. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut jamais oublier que la très grande différence entre les États-nations et les expérimentations d'élargissement, au sens où le dit Daniel Inerariti de la démocratie, elle présente une différence essentielle. C'est que dans le cas de l'État-nation, on reste dans une définition que l'on pourrait dire sociétale de la démocratie. La définition sociétale de la démocratie, cela veut dire des institutions de la redistribution. Des États-nations redistribuent d'une manière ou d'une autre, à travers les services publics, l'État-providence, environ la moitié de la production nationale. En Europe, on redistribue 1%. Donc une différence absolument fondamentale entre ce qu'on pourrait appeler une démocratie de citoyenneté et une démocratie d'humanité. Autant je pense, et là c'est un élément de discussion avec Daniel Inerariti, je pense qu'il a tout à fait raison dans sa réflexion sur l'élargissement de la démocratie, mais c'est l'élargissement de la démocratie au sens des institutions de régulation. C'est l'institution de la démocratie au sens de la conscience d'appartenir à un monde commun. Mais ça n'est, hélas, pratiquement pas la construction de formes de redistribution commune. Il est même frappant de penser qu'en 50, enfin depuis le traité de Rome, plus de 50 ans, depuis le traité de Rome, l'Europe a progressé dans bien des domaines, mais absolument pas dans la redistribution. La part du budget européen dans le revenu national n'a pratiquement pas bougé, voire dans les années récentes régressé. C'est quand même quelque chose de fondamental. Comment peut-on expliquer que nous avons des institutions parlementaires plus fortes en Europe, que nous avons des cours de justice extrêmement puissantes et qui ont un pouvoir de régulation très grand? Comment expliquer que nous avons une banque centrale, mais que nous ne partageons rien d'un point de vue redistributif? Je crois que ça, c'est un fait qui doit mériter réflexion. Et donc, entre un élargissement, je dirais, de certaines formes démocratiques, il faut toujours considérer cet autre aspect qui est la dimension redistributive. Les démocraties ne sont pas simplement des régimes. Les démocraties ne sont pas simplement des espaces juridiques, les démocraties sont des formes de société. Des formes de société qui s'organisent autour, enfin c'est ça la vraie définition de la démocratie, autour de l'idée de l'égalité d'une façon ou d'une autre. Or, autant il y a de l'égalité, autant il y a un idéal d'égalité toujours soumis à controverse et à problème dans un État-nation, autant il n'y a pas d'expérience de l'égalité au niveau international et hélas, même pas au niveau européen. Voilà.
Voilà. Donc, du coup, la parole est à Daniel.
Oui, tout à fait d'accord avec cette difficulté, ces défis de la redistribution sur lesquels il y a déjà. Et les réflexions sont nombreuses sur les formes possibles de redistribution et au-delà du cadre de l'État-nation. Et sur l'Union européenne et les régions, je partage aussi votre point de vue. Je crois que l'Europe est une forme de démocratie complexe, de gouvernance complexe, aussi parce que on a deux forces qui construisent l'Europe et on ne peut pas construire l'Europe sur seulement une de ces deux forces. Et les rapports interétatiques, l'intergouvernementalité, ça va rester toujours, et le mouvement plutôt fédéraliste, des dépassements du cadre de l'État-nation. Je crois qu'il s'agira toujours d'un équilibre entre ces deux forces qui maintenant sont, à mon avis, et malheureusement déséquilibrées vers les rapports purement interétatiques ou intergouvernementaux. Par ce qui concerne aux régions, je crois que théoriquement les régions peuvent collaborer à ces dépassements de monisme de cadre étatique dans la construction de l'Europe, mais à mon avis le problème c'est l'énorme diversité des régions en Europe. Et je me souviens quand on a signé une convention pour faire quelque chose relatif au chemin de fer au Pays Basque, entre le Pays Basque Sud et le Pays Basque Nord, c'est-à-dire l'Aquitaine. Les Français étaient... Oui, parce qu'il n'y a pas de gouvernement au Pays Basque Nord. Et les députés de l'Aquitaine, le gouvernement de l'Aquitaine était vraiment surpris du fait que l'accord a été signé par le Parlement basque. Et par ce qui concerne aux Français, a été signé par le Parlement national français. Cette asymétrie de pouvoir entre les régions fait qu'il soit vraiment difficile de trouver un espace commun des régions. C'est pour ça qu'il y a divers espaces de régions qui interagissent dans l'espace européen. Il n'est pas possible à mon sens. Et quand j'explique en français les autonomies en Espagne, j'explique toujours qu'il y a des régions en Espagne où l'État n'a jamais été présent en termes fiscaux. C'est impossible à concevoir ici que dans certaines formes, parties de l'Espagne, l'État n'a jamais, comment on dit ça, pris les impôts.
Été présent, oui. Merci. Madame Tasca.
J'avais une question pour vous, monsieur Inerariti. Vous y avez en partie répondu concernant ce que vous aviez dit dans votre propos initial sur l'Europe. Vous avez dit une Europe qui se construit sans démos. Comment pensez-vous l'expression du peuple, ça n'est pas simplement l'affaire des professionnels de la politique. Comment pensez-vous que l'on puisse nourrir aujourd'hui chez les jeunes générations l'idée de la constitution démocratique, de l'expression démocratique d'un peuple européen? C'est ma première question. J'en avais deux pour M. Rosanvallon. Vous avez beaucoup insisté sur la dualité démocratique. D'un côté, l'élection et la règle de la majorité. De l'autre, les institutions indépendantes que vous appelez de consensus. garante de l'impartialité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les conditions de leur désignation, de leur nomination ? Aujourd'hui, les élus, vous l'avez d'ailleurs dit, contestent très souvent le pouvoir des institutions dites indépendantes, justement parce qu'elles ne sont pas élues, et les citoyens les soupçonnent d'être sous influence. C'est vrai pour le Conseil constitutionnel comme pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Comment peut-on lever le soupçon ? Par quelles règles de nomination ? Et ma deuxième question concerne ce que vous avez dit sur le progrès de la démocratie, dont vous dites qu'il dépend de la délibération permanente sur la démocratie. Quels sont pour vous les lieux possibles de cette délibération ? Est-ce que ça se passe dans les institutions électives, parlement, conseil, collectivités territoriales ? Est-ce que ça se passe dans les centres de recherche et dans les centres universitaires ? Est-ce que ça peut se passer dans la cité, au plus près des citoyens ? Je pense par exemple aux expériences des conseils de quartier, par exemple. Et est-ce que ça peut se passer dans l'entreprise ? On n'a pas beaucoup évoqué le problème de la démocratie dans l'entreprise, c'est-à-dire de l'expression des salariés dans les décisions de gestion de leur entreprise.
Merci. Daniel.
Oui, je crois que l'idée des peuples est trop étroite pour ce qui concerne la Constitution européenne. C'est un cadre trop étroit. Et parce que nous, en tant qu'Européens, nous n'avons pas une identité telle qui est propre à les peuples traditionnels de l'Europe, c'est-à-dire, du point de vue géographique, nous ne sommes pas un continent fermé, bien délimité. Nous sommes, comme le disait Paul Valéry, une presqu'île de continent asiatique, non ? Du point de vue historique, nous ne pouvons pas nous concevoir nous-mêmes comme étant nettement isolés du reste du monde. Et nous sommes versés vers l'extérieur tout au long de notre histoire. Il y a beaucoup d'arguments contre l'idée d'une identité européenne dans le sens fort du terme, dans le sens de constitution d'un peuple européen. À mon avis, ce qu'il faudrait dire aux jeunes ou personnes qui veulent animer un peu pour être fiers d'être européens et être conscients de l'expérimentation que nous avons ici en marche en Europe, c'est plutôt penser à la mission civilisatrice que l'Europe peut jouer dans le monde. C'est-à-dire être la seule source d'illusion que je trouve pour la Constitution européenne est l'idée d'une expérimentation à l'échelle régionale de ce qui pourrait devenir un jour la gouvernance mondiale. Je me souviens, j'étais ici en France à l'époque de la du débat des élections présidentielles entre Royal et Sarkozy. Et Sarkozy, il a dit « Je ne veux pas que l'Europe soit un cheval de Troie de la mondialisation. » En écoutant ça, je dis « Ah, j'ai une idée de ce que l'Europe devrait devenir. Un cheval de Troie de la mondialisation. » C'est un bon mot. Hein. Et j'ai tapé sur Google et j'ai vu que cette expression venait du congrès des partis socialistes d'Allemagne. Mais je crois que l'idée d'un cheval de Troie de la mondialisation, c'est-à-dire d'une expérimentation d'une world polity, d'une petite world polity, c'est la seule tâche qui peut attirer les gens à s'identifier avec le processus européen. Pas une question d'identité, de racines, forte, dans le sens forte du terme.
Merci. Pierre-Antoine Vallon.
Si je peux dire un mot pour continuer dans ce sens-là, je pense qu'il y a deux images de l'Europe. L'Europe peut être considérée comme une expérimentation vers un fédéralisme. Eh bien, ça ne sera pas cela, nous le savons maintenant. Mais l'Europe peut être considérée comme une expérimentation de ce que serait en petit une mondialisation réussie. Je pense que l'Europe, ça doit être le laboratoire d'une mondialisation réussie de tout point de vue. Donc ça, c'est pour moi la définition positive de l'Europe maintenant, qui me fait penser d'ailleurs à la définition de l'État-nation qu'on pouvait donner à la fin du Moyen-Âge. Qu'est-ce que l'État-nation ? C'était réussir en petit, donner en petit une consistance aux idéaux d'universalisme. Puisque l'Empire échouait à faire vivre l'universalisme, qu'au moins les États-nations fassent vivre à leur façon une expérience de l'universalisme. Eh bien, aujourd'hui, l'Europe ne sera plus au nombre de partenaires qu'elle regroupe une expérience de fédéralisme, mais elle peut être l'expérimentation de ce que seraient les règles d'une mondialisation réussie. Pour revenir aux questions concernant... Le statut effectivement équivoque d'institutions comme les autorités indépendantes, qui sont d'abord violemment contestées, surtout en France, par les élus qui pensent évidemment que ces institutions indépendantes sont illégitimes et qu'elles exercent un pouvoir qui devrait revenir simplement aux élus. Et vous l'avez dit, parfois entraîne l'inquiétude des citoyens qui trouvent qu'elles sont manipulées. Je crois qu'il faut qu'elles ne sont pas encore, en tout cas en France, moins peut-être que dans d'autres pays, les construire comme des institutions démocratiques. Il y a trois modes de nomination qui peuvent exister et qui existent dans le monde. Il y a des nominations de type bipartiste. C'est le cas aux États-Unis. La plupart des autorités indépendantes aux États-Unis, dans la mesure où presque chaque citoyen doit indiquer sur les listes électorales quelle est son affiliation partisane. Il n'est pas membre d'un parti, mais son affiliation, eh bien à ce moment-là, il faut qu'il y ait la moitié de républicains et la moitié de démocrates. Donc cette règle bipartisane, elle est très répandue aux États-Unis. Une autre règle qui existe pour d'autres institutions, je pense au Conseil de régulation du travail aux États-Unis, pour prendre cette institution-là, et c'est aussi pour la Banque fédérale, c'est un système de représentation de régions et de professions. Donc il y a un système représentatif où les gens sont nommés à ce moment-là, comme au Conseil économique et social maintenant, si vous voulez. On dit qu'il y a des représentants d'une région, des représentants d'une profession, d'un syndicat, etc. Et ce sont les organismes représentatifs qui nomment. Et il y a une troisième solution qui consiste à trouver des personnalités, non pas représentatives, mais des personnalités, si je puis dire, représentatives de l'impartialité. Mais dans tous les cas, une procédure de nomination doit signifier deux choses. Que celui qui nomme justifie la nomination. C'est-à-dire explique pourquoi la personne qu'il nomme a les qualités pour remplir cette fonction-là. Le fait de devoir justifier une nomination de façon précise changerait bien des choses. Aujourd'hui, lorsque un gouvernant nomme quelqu'un, il nomme la personne, mais sans s'expliquer, en disant « il est très bien ». Mais s'il devait expliquer pourquoi cette personne est la plus capable par rapport à d'autres, à ce moment-là, ça changerait déjà beaucoup de choses. Et la deuxième chose, c'est qu'il y ait des formes, disons, de contre-saint des nominations. Les contre-saint des nominations, c'est ce qui existe à travers des systèmes d'audition dans différentes instances. Et que ces auditions, contrairement à ce qui se passe actuellement, soient liées à la nécessité d'obtenir un accord des deux tiers, et non pas comme ce qu'on est en train de voir en France dans certains cas, avec exactement le rejet dans ces conditions-là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut mettre des conditions exigeantes qui soient justement pas simplement des conditions qui permettent au pouvoir majoritaire de redoubler sa voix. Il faut que les conditions de contre-saint ne soient pas celles du pouvoir majoritaire. Voilà, tout simplement. Donc là, il y a déjà cette dimension, je dirais, d'explication, et cette dimension de contre-saint qui me semble déjà extrêmement, extrêmement importante. Et puis c'est aussi soumettre ces institutions à la question permanente de l'opinion publique, c'est-à-dire les obliger à être davantage présents dans la scène publique, que leurs décisions soient motivées et qu'elles soient en quelque sorte elles-mêmes contraintes à des formes de contrôle, si je puis dire, de la presse, de l'opinion publique, des syndicats, des organisations citoyennes. Moi, je pense que les démocraties ne progressent pas simplement par les institutions positives, mais aussi par les institutions de contrôle, par les institutions négatives. Déjà, en Grèce, on élisait presque plus d'institutions de contrôleurs que d'institutions de gouvernants. Eh bien, la démocratie doit redonner son importance, plus qu'elle n'existe aujourd'hui, à ce que j'ai appelé la contre-démocratie, c'est-à-dire ces institutions de contrôle, ces institutions de surveillance, ces institutions de jugement. En ce qui concerne la délibération, la délibération elle doit avoir lieu partout. Je pense justement qu'il ne faut pas penser ce qui était l'utopie du parlementarisme libéral, qui avait une seule enceinte possible de la délibération démocratique. La délibération démocratique, elle doit être démultipliée, elle doit être avec des conditions très variables. Elle peut être avec aussi bien sur Internet que dans la vie intellectuelle, que dans la vie sociale. Mais il faut multiplier les espaces qui soient des espaces en quelque sorte producteurs. Il y a des effets d'imitation, je pense, dans le débat démocratique, des effets de qualité. Il est vrai que lorsque les travaux universitaires sont trop coupés de la société, à ce moment-là, ça donne davantage d'espace, je dirais, aux charlatans de la réflexion et de la pensée, aux essayistes superficiels. Donc, chacun peut apporter sa contribution. Moi, si j'ai lancé la République des idées, par exemple, pour publier des livres de qualité universitaire, mais qui sont rendu appropriable par les citoyens. C'est une forme de participation au débat public. Et c'est la multiplication de ces expériences qui fait qu'un espace devient plus démocratique. Ce n'est pas simplement l'idée qu'il pourrait y avoir un lieu central. Et peut-être que des lois comme la loi sur la démocratie de proximité, qui est de 2000 ou 2001, je crois, un an près, on ne peut pas considérer que la démocratie ne progressera que parce qu'il y a un type d'institution qui canalisera, je dirais, tout le débat public. Il faut au contraire viser à les démultiplier au maximum. L'idéal d'une société de citoyens éduqués et délibératifs ne se fait pas simplement par un seul moyen ou une seule institution. Bon, il faut qu'il y en ait beaucoup, et beaucoup d'initiatives publiques, mais aussi beaucoup d'initiatives, justement, directement citoyennes, et je crois que nous n'en manquons pas tellement. Mais qu'il faut que le bon grain chasse l'ivraie, et l'ivraie, il est vrai dans ce domaine-là, et pousse à ses drues, quoi.
Bien, je suis navré, mais on va s'en tenir là. Je sais qu'il y avait d'autres questions, mais nous sommes en retard. Hein, et comme nous devons recommencer à 15h avec la conférence de Michel Vauvel, je clôt la séance ici en le regrettant fortement, parce que moi-même, j'aimerais bien continuer à écouter les questions et les réponses. Merci beaucoup.